pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Oui, les faramineux, tu le sais bien, Mathieu Tessier. Et arrête, parce que c'était pas toi que je voulais présenter en premier, c'était notre invité qui est beaucoup plus sympathique que
avec
toi.
Avec raison.
Alexia Jensen, bonjour.
Bonjour.
Alors Alexia, toi, tu es directrice des communications et porte-parole de l'ensemble. Alors je vais le dire comme il faut, Voces
Boreales.
Boreales. Oui. Ah, bah tu vois.
V-O-C-E-S, Voces.
Voilà, bah c'est
comme
bien.
Les Italiens.
Mais tu le dis mieux, t'as un bel accent. Donc pour un concert qui s'appelle Vigile et qui a lieu samedi 30 avril à l'église Saint-Léon de Westmount.
Voilà.
Je ne connaissais pas. Alexia m'a fait voir des photos, c'est sublime, vraiment sublime.
C'est vrai qu'elle est belle. Ouais, exact.
Elle est très belle, sur de Maisonneuve, alors vraiment au centre de Westmount.
Alors on va en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, on est mardi. Mathieu Tessier est là, bien sûr. Non, pour sa chronique, la toponymie d'un accentué. Merci Mathieu d'être avec nous.
Habituellement, t'es un peu plus désolé de m'annoncer.
Oui, je sais, aujourd'hui, Alexia est dans le studio, donc j'essaye de rester polie. Tu vois, je voudrais pas qu'elle parte en se disant, mais où je suis passée. Donc, on écoute un audio de Voces Boreales. Non, ça fait plus espagnol qu'italien, moi, ce que je fais. Allez. Alors,
c'est
ce
beau.
Magnifique concert, ah, c'est beau, hein?
Ouais,
magnifique concert va avoir lieu parce que Rachmaninov, à quel âge? Non, depuis combien de temps il est décédé?
Il célèbre ses 150 ans l'année prochaine, 150 ans,
ouais.
Et toujours aussi jeune dans sa tête.
C'est absolument magnifique. Donc, des chants slaves, des chants russes, une musicienne ukrainienne, est-ce que le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde a été fait intentionnellement?
Alors, le programme, à l'origine, c'était supposé être un concert de... Enfin, on devait jouer les Vigiles nocturnes, les Vêpres de Rachmaninov, une œuvre classique, un chef-d'œuvre de Rachmaninov. Et on a commandé une œuvre à un compositeur russe, Evgeny Shcherbakov. Et donc, et je dis « on », c'est le directeur artistique, Andrew Gray, qui a pensé à ça. Et donc, c'était un programme de musique russe. Étant donné le contexte politique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va de l'avant? C'est de la musique magnifique. C'est de la musique magnifique. Rachmaninov lui-même a fui la Russie. Evgeny Shcherbakov a fui la Russie également en 2008. Donc, on est vraiment... on sent que le contexte est parfait, en fait, pour ce concert-là. Oui. Et au lieu d'en faire un concert uniquement de musique russe, Andrew Gray a contacté une compositrice ukrainienne, Larissa Kuzmenko, qui elle-même a eu une histoire, disons... très, très émouvant, sa famille a dû quitter l'Ukraine à cause de la famine de 1931-32. Oh. Et donc, elle a accepté avec plaisir de faire partie du programme. Et voilà, c'est là que Vigil est né.
Ah, c'est une belle idée. Alors, en plus, ça devait être en triptyque.
Ça devait être 3 concerts. Et ce concert-là, ça devait être le dernier, le plus gros, le plus imposant. Mais à cause de la Covid, à cause la pandémie, on a dû changer nos plans et on est resté avec ce concert-là. Ça fait plus de 3 ans qu'on le prépare. Donc, on y est, enfin. C'est le 30 avril.
Plus de 3 ans pour une soirée sublimissime. C'est le travail qu'il y a derrière. Des moments, on n'en tient pas assez compte. C'est quand Absolument. On va voir des spectacles, de tout le travail qu'il y a derrière.
Surtout en temps de pandémie. Ça a été très difficile. On planifie, on change nos plans. On a fait un travail énorme juste à modifier sans arrêt le programme. Et on est tellement contents d'être là et de pouvoir présenter ce programme tel qu'il est maintenant.
Ah, écoute, rien que le peu qu'on a entendu, là, ça m'a donné le goût. N'est-ce pas, Mathieu ?
Tout à fait.
Ah ben je savais que toi aussi.
J'étais encore en réflexion.
C'était encore en réflexion.
C'est très introspectif.
Tout à fait.
Et en même temps, très, on sent vraiment l'énergie qui est dégagée par un chœur de 40 voix. Les Vêpres de Rachmaninov, c'est vraiment, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un chef-d'œuvre.
Et c'est
absolument.
Pas sombre non plus.
Non, c'est très lumineux. Ouais. Il y a des moments un petit peu plus introspectifs et il y a des moments vraiment où c'est de l'énergie pure. On sent vraiment le côté très flamboyant de la liturgie orthodoxe.
Et il y a combien de personnes dans l'ensemble ?
Ce concert, dans le chœur Voces Boreales, on va avoir 40 chanteurs.
Ça va être fou, ça va faire trembler tout l'intérieur de notre corps.
Voilà, exactement. j'ai des frissons juste à y penser.
Oui.
Surtout dans une acoustique aussi généreuse qu'à Saint-Léon de Westmount.
C'est vrai. Alors dis-moi, j'ai pas une ultra connaissance de Rachmaninov, même si je connais les airs les plus célèbres, les musiques les plus célèbres qu'on en a entendues. Mais Vigil, c'est quoi ce titre ?
Vigil nocturne.
Dans ma tête, quand je dis Vigil, j'ai pas du tout cette même sensation. Donc
Vigil nocturne, en fait, c'est le titre officiel des Vêpres. De Rachmaninov, quand on parle de son chef-d'œuvre, on dit souvent les Vêpres, mais en fait, le véritable titre, c'est Vigile nocturne.
Et tu vois, ça, je ne savais pas, je ne dois pas être la seule, je pense.
Et c'est c'est des célébrations liturgiques orthodoxes qui ont lieu pendant plusieurs jours et donc ça suit le calendrier orthodoxe et ça met en musique toutes les émotions, toute la gamme d'émotions de ces célébrations, en fait.
Ah, écoute, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'ignorais aussi. Il y a une répétition... Oui, il y a une répétition de combien de temps pour ça ? Tu m'as dit 3 ans pour le préparer, mais 3 ans, c'est comment la préparation d'un concert comme ça ? Si je pars à la base, par exemple, parce qu'il faut trouver... les invités qu'il va y avoir, il faut trouver les morceaux qui vont être joués, ce qui va être joué, puis après il y a le moment des répétitions, ça.
Alors Andrew Gray, je dois dire, fait un travail extraordinaire d'aller d'abord trouver les compositeurs qui vont faire partie du programme, de trouver les chanteurs. Je pense qu'il m'a déjà parlé de plus de 500 courriels.
Wow.
À essayer de trouver la bonne personne. Et toutes les œuvres qu'on va entendre sont quand même complexes. Non pas écouter, parce que c'est très facile et très agréable d'écouter un programme de musique comme celle-là. Sauf qu'il faut être sûr que tous les chanteurs puissent chanter la bonne partie et en tout cas que le sentiment, que l'atmosphère soit la bonne. Et Andrew Gray a vraiment l'oreille pour ça, le savoir-faire. Et donc on parle de mois et de mois de travail, de planifier pour planifier ces répétitions, et on parle de presque une trentaine d'heures de répétition juste pour peaufiner, pour être sûr que vraiment c'est parfait, qu'on en sort vraiment transformé finalement de ce concert.
Il faut au moins une fois dans sa vie aller voir une répétition d'orchestre symphonique, parce que c'est là que tu comprends que déjà dans un band de 5 musiciens, c'est difficile de s'entendre.
Oui.
Là, tu as 60 personnes qui doivent chanter.
Absolument.
Ou jouer en même temps. C'est particulier, c'est vraiment fascinant. Ouais. Une fois que tu as vu...
C'est vrai. Et bien justement, si on en écoutait un autre morceau...
Avec
allons-y.
Plaisir.
Allons-y. Alors Alexa Jensen, toi, comment tu t'es trouvée ici? D'abord, est-ce que tu aimes cette musique? Est-ce que tu étais déjà passionnée? Est-ce que tu joues quelque chose? Comment t'en es venue là?
J'adore la musique, avec un grand M. J'ai fait de la musicologie, j'ai étudié l'opéra. J'ai ensuite travaillé dans plusieurs organisations, la musique baroque, l'orgue, les concours... Mais un chœur, c'est autre chose. C'est vraiment un son en 3D. C'est une complexité orale qu'on écoute. Donc, mais c'est, encore une fois, c'est pas difficile d'écouter cette musique-là, mais on sent qu'il y a une richesse et ça fait vibrer les tripes. Donc, à la question, est-ce que j'aime ça? Oui,
oui.
Totalement, je suis vendue.
Mais à la question, est-ce que tu chantes?
Ah, est-ce que je chante? Non, vous voulez pas m'entendre chanter. J'ai longtemps joué du piano. J'ai joué un peu de viol de gambe, c'est comme un baroque, mais je n'ai jamais chanté. J'apprécie beaucoup quand on chante et j'aime m'asseoir et écouter.
Ah oui, parce que c'est assez formidable. Donc, tu as participé à quelques répétitions au niveau musique.
Oui.
Donc, tu as eu le temps d'avoir le frisson dans cet endroit.
Oh, magique. Absolument. le Saint-Léon de Westmount est une grande église. Alors, le son est réverbérant. Et quand on voit devant nous 40 chanteurs qui chantent, une musique qui est aussi riche et impressionnante que les Vêpres de Rachmaninoff, on a de la difficulté à parler. Comme oui. Moi, maintenant, juste à y penser, j'ai de la difficulté à trouver mes mots. C'est vraiment impressionnant.
Et tu connaissais déjà les Vêpres? Je connaissais déjà les morceaux. Est-ce que tu les avais entendus autrement? Puis que là, d'un coup, c'est magnifié par toute... Moi, rien que l'idée de me dire 40 voix, j'ai le menton qui me tombe sur la poitrine. C'est d'étonnement.
Et pour et plus d'informations sur le concert, on peut aussi voir le site web vocesboreales.org. Et j'ai là-dessus mis un petit extrait des Vêpres de Rachmaninoff. C'est une œuvre qui est très connue. Mais est-ce que je l'ai écoutée vraiment? Est-ce que je me suis arrêtée? Est-ce que j'ai vraiment... pris le temps d'entendre tout ce que Rachmaninoff a à nous offrir, peut-être pas. Et c'est vraiment la chance, là, le 30 avril, c'est vraiment la chance de pouvoir le faire.
Mais c'est bien aussi de se rendre à un concert sans connaître, afin de découvrir les pièces musicales.
Avec une ouverture d'esprit. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce concert-là, il va y avoir aussi des œuvres qu'on n'a certainement pas entendues, l'œuvre de Cherbakov, l'œuvre de Kuzmenko. L'œuvre de Cherbakov a été commandée spécialement pour le 150e de Rachmaninoff. Et donc, il s'est inspiré des Vigiles Nocturnes, des Vêpres de Rachmaninoff. Donc, on va entendre comme une réverbération de Rachmaninoff dans tout le concert. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mathieu, avec, pas Arlette.
Oui, avec toi, Mathieu. On va s'asseoir et on va écouter quelque chose de complètement nouveau. Mm-hmm. Que ce soit Rachmaninoff ou Cherbakov ou Kuzmenko, ça va être rafraîchissant. Et c'est la découverte et la culture, c'est ça. C'est la découverte.
Puis j'ai toujours remarqué que dans les concerts classiques aussi, tu entends la pièce où tu es. Parce que même si les gens l'ont écouté beaucoup sur disque... La musique, ça vit dans un environnement.
Absolument.
Puis surtout, tu entends le lieu vivre. Donc.
Surtout dans une église comme Saint-Léon de Westmount. Mm. Elle est tellement grande et magnifique et peinte par des peintres connus du Québec. C'est une expérience. C'est plus qu'un concert, c'est une expérience.
Elle a l'air très grande.
Elle est très grande, oui. Les détails.
Tu me montrais sur les photos. Je me disais que j'avais jamais entendu parler de cette église avant.
Elle est située sur de Maisonneuve, donc elle est nichée dans un coin de Westmount. Elle est facile d'accès, mais effectivement, peut-être que les gens vont découvrir non pas seulement Rachmaninoff, mais Saint-Léon de Westmount.
Parce qu'il s'y passe souvent des concerts.
Oui, plusieurs concerts, plusieurs organismes offrent des concerts, dont les chœurs. Les chœurs aiment beaucoup cet endroit-là, probablement parce que c'est tellement grand et réverbérant que ça donne tout de suite, on plonge tout de suite dans la musique, dans l'atmosphère.
Est-ce que tu as pensé te glisser dans le chœur, juste pour être dans le chœur et...
faire semblant de chanter, mais d'être avec eux.
Oui, Andrew Gray me pointerait du doigt, toi là, non, j'entends une fausse note.
Non, mais pas obligé de chanter, non, on peut juste faire semblant.
Tu fais juste, tu sais, du...
Ah, je fais semblant, oui, je fais semblant, tu bouges les lèvres. Je dois avouer que pendant les répétitions, j'ai l'occasion de me promener, de prendre des photos. Et selon où on se trouve, le son est différent et c'est une expérience assez enrichissante. Ouais. Mais je ne chanterai pas dans le chœur.
Depuis quand, comment es-tu arrivée directrice des communications? Quel est ton parcours? On peut parler un petit peu de toi au milieu de tout ça, parce que quand même, c'est toi qui viens nous donner aussi le goût de cette belle soirée en perspective.
J'ai étudié la musicologie, j'ai fait une maîtrise en musicologie, mais je prenais beaucoup plus de plaisir à parler de la musique avec le public, avec les gens autour de moi, que d'écrire dans ma tour d'ivoire. Et donc, je me suis dit, finalement, la musicologie, c'est très bien, mais les communications, c'est encore mieux. D'être ici avec vous, c'est tellement agréable. Et donc, j'ai commencé à travailler tout de suite en communication, à faire plusieurs choses, la musique contemporaine, la musique baroque. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est la musique qui me fait plaisir. C'est-à-dire que j'aime la musique.
Oui.
J'écoute avec une oreille et un cœur ouvert.
C'est bien, c'est parfait. En même temps, j'ai une dernière question, mais qui est comme un point d'interrogation. C'est une surprise pour moi. Je croise beaucoup de personnes qui aiment vraiment la musique classique, qui assistent à des concerts, soit baroque, soit autre. Pourquoi il n'y a qu'une seule soirée?
Mais ça dépend quel organisme dont vous parlez. C'est-à-dire, l'OSM a plusieurs représentations parce qu'ils ont un lieu et donc ils n'ont pas nécessairement besoin de payer les mêmes frais. Ils ont déjà un public qui les suit depuis longtemps. Je pense aussi qu'un concert, un seul concert, c'est un rendez-vous. Il faut y être.
C'est joli, ça, oui.
Il ne faut pas le rater, il faut le mettre à son agenda le 30 avril.
J'allais justement.
Fais bien de le répéter, à quelle heure?
À 19h30 à l'église Saint-Léon de Westmount. C'est un rendez-vous avec Voces Borealis pour le concert
d'hier. C'est un samedi.
Ça vous donne le temps de prendre un petit quelque chose à manger, de vous rendre au concert, de vous imprégner de la musique de Rachmaninoff et ensuite peut-être de célébrer avec la personne avec qui vous êtes allé. Et manger un bon repas et vous coucher, le ventre bien rempli et la tête
après,
aussi.
Après avoir entendu le concert, franchement, il faut y aller, au contraire, il faut y aller le vide de tout et pour emmagasiner tout ce qu'on va entendre.
Je pense que chaque personne aura son parcours. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on va tous se retrouver et partager ce moment. Et Dieu sait que pendant la pandémie, on n'a pas... Oui, partager beaucoup de moments
comme on
ensemble.
On en a besoin, oui, ça va inviter au lien et c'est parfait.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous répéter où on peut acheter les places?
Alors, Voces Borealis, VOCESBOREALES.org, ça c'est notre site web, et on peut avoir un peu plus d'informations sur le concert, acheter des billets, ou alors s'inscrire à l'infolettre.
Oui, et puis il y a aussi la possibilité de rentrer au dernier moment, s'il reste
absolument,
une ou deux places.
Absolument, on peut toujours acheter des billets sur place.
Mm-hmm. Parce que c'est bon de le savoir, ça, des fois, tu sais, quand il y a des gens qui changent d'avis au dernier moment, c'est bien de pouvoir savoir qu'à la porte, on peut quand même avoir des billets.
On accepte tout le monde, on est très content de voir le public nombreux.
Donc je présume que tu seras la première dans la salle?
Je serai là, je serai là pour accueillir tout le monde avec un grand sourire.
C'est bien, c'est parfait. Alors, on va écouter, on va partir avec un autre morceau plus long où on va vraiment avoir un sentiment d'écoute sur la promesse qu'on a de cet endroit et de cette musique. Qu'est-ce que c'est le titre, Mathieu?
Bless the Lord, O my soul.
Tu dis ça très bien. Allez, on l'écoute.
Thank you.
C'est magnifique. Et encore plus, enfin là on est en studio, les lumières sont allumées, il y a quand même du bruit, mais j'ai l'imagination de cet endroit d'être.
Moi j'avais les yeux fermés.
Ah ben, tu faisais bien. C'était mieux que tu avais à faire. Restez avec nous, Mathieu est là dans la prochaine demi-heure. Alors surtout, voilà, suivez-nous. À bientôt, à tout de suite.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Je t'aimerai dans le jardin, sous le grand cèdre, au doux printemps, quand dans les arbres monte la sève. Je t'aimerai comme un saumon remonte la rivière. Wananiche, je t'offrirai la douce rose de ma chair. Aime-moi comme le vent gonfle la voile, et dans tes yeux naîtront la lune et les étoiles. Aime-moi de tout ton cœur, et nous toucherons au bonheur. Aime-moi toujours, mon amour.
Alors, on vient d'entendre René Lucier qui nous chantait « Je t'aimerais ».
Je t'aimerais.
Et puis maintenant...
T'as vu, j'ai pas Mathieu, chanté aujourd'hui.
Tu es en train de le faire, Mathieu Tessier.
Ah, c'est vrai? Oh mon Dieu, c'est...
Tu es en train de le faire. Et ça y est, t'as gâché l'émission, là, ça y est.
Est-ce que tu veux une place à Volchess? Non, je suis, oui, pas sûre que tu... Je suis pas sûre que tu y rentrerais.
Alors...
Faut me donner ma chance.
Alors,
eh bien,
raconte.
Arlette et Alexia, on se retrouve voguant sur les eaux du Golfe en direction de l'intérieur des terres canadiennes, parce que tu te souviens que la semaine dernière, on a quitté les sirènes. Alors, qu'est-ce que nous allons apercevoir autre que les sirènes, justement, qui essaient de nous attirer à elles? Naviguant entre l'île d'Anticosti et la péninsule gaspésienne, on va apercevoir un des symboles les plus connus de la Gaspésie, que dis-je, de notre province. J'ai nommé le rocher percé.
Oui.
Ah, oh, oui.
Cet îlot rocheux qui est juste en face du village de Gaspé, un autre village mythique de la Gaspésie, il est haut de 90 mètres, il est long de 333 mètres et il est distinctif par l'arche qui est, elle, haute de 15 mètres. Et la légende d'aujourd'hui, drame nautique et humain, le concerne directement. On a pris conscience de son histoire à cause d'une lettre qui a été écrite par un missionnaire jésuite qui écrivait à un prêtre qui voulait s'établir en Nouvelle-France. L'histoire du rocher est liée donc au destin malheureux d'une jeune fille, Marguerite de Beaumont, qui était la voisine de ce missionnaire jésuite qui habitait à Rouen, en Normandie. Donc, cette jeune fille, Marguerite de Beaumont, était une bonne amie de la famille et ce jésuite a perdu sa trace quand il est allé étudier au séminaire, mais ils se sont retrouvés sur le bateau, les amenant au Québec dans des conditions ou dans des circonstances assez tragiques. Elle avait 20 ans, il avait 16 ans. Mais avant qu'il nous raconte l'histoire, le missionnaire se lance dans une description, j'ai pas mis de phrase parce que je voulais rester poli, ma foi, tiens, surprenante de la Nouvelle-France. Je lis. « Tu dois d'abord savoir que ce pays que tu convoites est très hostile. Cette Nouvelle-France est la terre du diable, rien de moins. Au printemps, il y a des nuées de moustiques, des nuages de bêtes sanguinaires qui vous arrachent la peau avec leurs dards. Il y en a tellement qu'on dirait de la pluie vivante. » L'hiver, c'est terrible. Il suffit de mettre le nez dehors pour être instantanément gelé sur place. Sans compter les animaux sauvages qui guettent la viande fraîche. Et là, je pense pas qu'il faisait référence au fait que c'était l'hiver. Je pense que c'est plutôt que la viande n'était pas encore morte. Derrière chaque arbre, chaque pierre, ils fixent leur proie, les crocs sortis, l'œil brillant. Parce qu'il parle des loups. Le démon lui-même se promène dans nos bois, semble-t-il. Il a deux immenses cornes tordues et pousse d'horribles cris.
Quelle horreur, ça fait peur!
Oui, voilà. Et les loups, les mangeurs d'enfants aux dents effilées comme des couteaux, la nuit, on les entend faire leur cérémonie à Belzébuth. Et là, je dois avouer que j'ai dû faire une petite recherche parce que j'ai entendu le nom Belzébuth plusieurs fois, mais voilà, je l'ai entendu dans des chansons populaires.
Le diable!
Oui, en fait... Si on se fie à certaines sources, principalement bibliques et postérieures aux textes vétérotestamentaires, ça c'est donc relatif
à... Je suis impressionné.
Allô, merci. À l'Ancien Testament, merci Google. Belzébuth est un démon et un des princes couronnés de l'enfer, les Philistins, anciens l'adoraient, sous le nom de Baal-Zébuth. Il est aussi connu sous le nom de Enlil ou Bel, ou encore selon les Baël, en fait, selon les prononciations. Et comme la mienne est très mauvaise, vous choisirez une des trois, je vous en ai offert trois. Il est représenté sous l'aspect d'une gigantesque mouche.
Ah bon?
Oui, ça non plus je ne le savais pas. Les choses que j'apprends, les choses que tu me fais faire, Arlette. Donc, je poursuis.
Ça implique tout le monde. Hein? On apprend tous avec toi.
Je poursuis la lettre donc de ce missionnaire jésuite du 17e siècle. Et ce n'est pas tout. Les Indiens, les Iroquois, ils scalpent les missionnaires et les font brûler vivants. Tous meurent dans d'horribles souffrances au son des tambours de guerre. C'est une guerre de malheur, une terre de malheur, pardon, et de mort que je te déconseille fortement. L'histoire de Marguerite Beaumont, enfin, il y arrive, en est la preuve. La jeune fille est partie de Dieppe quelques jours après son 16e anniversaire. La petite Normande s'est embarquée à bord du bateau Le Dauphin pour se rendre en Nouvelle-France. Le marquis de Vaudreuil, rien de moins, son nouveau seigneur, ainsi que le chevalier Raymond de Nérac l'attendaient. Seulement un malheur arriva. Le bateau fut abordé par un trois-mâts hollandais. La petite caravelle n'avait donc aucune chance. Marguerite fut dépossédée de ses biens et, trois petits points, de sa vertu, plusieurs fois d'ailleurs. Trop faible devant l'assaillant, elle a dû céder et se soumettre à leurs pervers désirs. Je lis toujours la lettre. Hein? Jamais elle ne perdit son sang-froid. Elle resta inerte comme un rocher, dur comme la pierre. Bien qu'elle fût la victime, c'est eux qui se sentirent possédés. Elle les narguait du regard, j'ai des frissons à lire ça, les maudissant un à un. Quand ils furent repus, quelle expression, noblement elle se leva, avança vers la proue du bateau et se jeta à la mer. Soudain, comme si Dieu lui-même en avait assez, l'orage éclata et la tempête se déchaîna. Essayant donc de garder le contrôle de leur navire, les Hollandais aperçurent devant eux l'immense rocher et au centre un trou. Ils ont décidé d'aller se cacher dans ce trou. Une brèche énorme s'élevait et les attirait. Le sexe profané avait pris forme dans le roc. Ils furent les victimes du viol de la terre par une mer en furie et s'écrasèrent de plein fouet sur le rocher.
Wow.
J'ai chaud. Et malgré les cris, les pleurs, les supplications et la détresse, le rocher resta froid et dur, sans pitié. Tous moururent, sauf moi. Dieu laisse toujours un témoin pour raconter ses actes et évoquer l'ampleur de sa toute-puissance. J'étais prisonnier sur le bateau et j'ai tout vu.
Incroyable comme histoire. Ouais.
Tous ceux qui voient donc ce morceau de terre, ce rocher percé par la haine des vagues au centre de l'eau, fier et inébranlable, savent bien que l'esprit de Marguerite habite ce lieu. De jour comme de nuit, on entend sa voix hurler vengeance à travers les cris des mouettes, des grands oiseaux blancs à tête blonde, symbole de sa pureté, les oiseaux vocifèrent sans cesse l'innocence outragée. En espérant avoir répondu à tes questions, mes amitiés à toi et à ton père, Hubert de Vosque, le 23 mai 1665.
Ça finit quand même assez brusquement. En disant,
c'est un extrait, oui, mais probablement qu'il y avait autre chose. Mais,
Merci et bise à tout le monde.
non, mais des fois, là, on se dit, bon, d'accord, j'étais prisonnier. Est-ce que tu as fait quelque chose pour elle? Non, mais...
Ben, s'il est attaché, je veux dire, s'il est prisonnier,
oui,
à savoir
vrai.
À quel point aussi il était sur le bateau. Mais je n'ai pas
quelle
dit
horreur,
cela.
Quelle histoire d'horreur.
Alors, je pense que la prochaine fois que je me rendrai à Gaspé, je foulerai ces plages.
Oui, d'une autre façon.
Je regarderai le rocher, certainement d'une autre façon.
On n'écoute pas cette lettre sans être marqué.
Oui. Alors, après, on part en musique?
Tout à fait.
Alors, après, en musique, il nous met une super chanson qui est très sympathique. Alors qu'avec le texte qu'il vient de nous faire, justement, ça va nous remonter. Donc, on écoute Steffi Schock qui nous chante « As-tu deux minutes ?»
As-tu deux minutes à me consacrer ? As-tu deux secondes ? Non, as-tu deux minutes ? As-tu deux minutes à me consacrer ? As-tu deux secondes ? Non, as-tu deux minutes ? As-tu deux minutes à me consacrer ? As-tu deux secondes ? Un peu de temps sur le bras, je suis dans tous mes états. Faudra bien que je te dise à quoi ça ressemble une crise, mais elle n'est pas finie. Puis dans ce temps-là, je parle pas. Puis j'écoute pas personne. Ça sert à rien que tu me donnes de ton temps pour l'instant. Je te le demande comme ça. As-tu deux secondes? Non, as-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes? Non, as-tu deux minutes? As-tu deux minutes?
On revient.
Eh bien, écoute,
j'écoute.
On va te consacrer quand même deux minutes. Allez, un petit peu plus, parce que tu as été gentil, là, Mathieu. Allez.
Vous êtes
alors,
bien bonne.
Alors, qu'est-ce que tu es allé voir?
La semaine dernière, j'ai été invité à aller voir la pièce. Ben, en fait, la pièce, qu'est-ce que je dis? Les employés. qui est un spectacle en fait immersif de Cédric Delorme Bouchard à La Chapelle. Oui. Et je pense qu'il reste encore des représentations, dont ce soir. Alors, je vous invite à aller voir, parce que c'est un spectacle multidisciplinaire, le mot que je déteste le plus au monde, avec metteur en scène et
oui,
metteur
c'est
en
ce
onde.
Que j'allais dire, metteur en scène est le mot que tu détestes le plus au monde.
Non, mais non, alors, c'est pas vrai. J'ai juste la misère à dire quand je suis en onde. C'est un mélange, en fait, de théâtre, de danse et de d'une scénographie, en fait, que je dirais unique. Je vais lire un court extrait de du texte de présentation.
D'accord.
Puis-je faire confiance à mon collègue? Que signifient ces cauchemars qui me hantent? Suis-je encore humain? Lorsque de mystérieux objets sont ramenés à bord du 6000e vaisseau d'une puissante corporation d'exploration spatiale, la fragile cohabitation de ces employés humains et ressemblants se lézarde et sombre dans la violence. C'est une adaptation d'un roman d'une auteure ou autrice danoise, Olga Ravne, que je ne connaissais pas. Et la mise en scène de Cédric Delorme, premièrement, quand tu rentres dans la salle, il y a énormément de boucan, de la fumée.
Ah, d'accord.
De la glace sèche.
Oui.
Il n'y a pas un son. Et là, soudainement, il y a un faisceau lumineux, un genre de laser rouge qui apparaît en plein centre. Et tout le long de la pièce, en fait, l'histoire nous est racontée avec une bande sonore. Donc, il y a plusieurs comédiens, je pense qu'il y a une cinquantaine, parce que le spectacle peut être aussi présenté en anglais, puisque les seuls mots qui sont prononcés sont enregistrés. Donc, il y a des... C'est ça. Mais donc, la salle est entièrement obscurcie d'une épaisse fume blanche. Dans le noir le plus complet, une bande nous délivre, là, ça paraît que je lis mon texte, un texte original et futuriste. C'est d'ailleurs grâce à cette bande son que l'histoire nous est comptée. C'est des témoignages, en fait, d'humains et de ressemblants. Comprenez par ressemblants, ici, c'est des robots androïdes.
Oh là là là.
Donc,
là, déjà.
C'est
vrai, on est en plein dedans.
Ouais. Et soudain, il y a un faisceau de lumière rouge. Et tranquillement, dans la pénombre, on commence à percevoir des mouvements sur scène. Et doucement, des formes humaines évoluent en orbite autour de ces faisceaux qui viennent en même temps prendre part à l'histoire. C'est particulier, je veux dire ça. C'est envoûtant. Il y a 5 interprètes sur scène. 6 interprètes sur scène. Mais il se déplace tellement lentement, c'est assez particulier. Puis, tu as toujours une voix qui te parle. Donc, c'est des témoignages. La voix, la fumée, les lasers, les mouvements excessivement longs. Je pense que je vais m'enlever un 2S ici. Excessivement lents des performeurs sur scène rendent le spectacle agréable, en fait. Parce que c'est lent. On te raconte une histoire. Tu es dans le noir. Il y a des faisceaux lumineux. C'est futuriste. C'est particulier. Ouais. C'est à La Chapelle.
D'accord.
Et bon, donc, c'est une autre production de La Chapelle, qui est une de mes salles préférées de Lille, hein, faut que je vous le dise. Et rendez-vous sur le site, parce que je pense qu'il reste des billets. Remarquez que moi, quand je suis allé, la salle était pleine, mais pleine. On nous a demandé d'enlever les espaces qui nous séparaient, parce que voilà, il y avait trop de monde.
Il y avait trop de monde. Bon,
il
n'y
avait pas trop de monde, la salle était pleine, en fait.
Alors... On t'écoute un peu nous poser des...
Ben, si tu veux, Alexia, tu ne le sais pas, mais à chaque semaine, j'éduque, avec des palatins, j'éduque notre chère animatrice sur les expressions québécoises.
Oula!
Et...
Attends. C'est parce que c'est pas seulement... Permets-moi de dire, c'est pas seulement l'expression québécoise, c'est qu'il enrobe ça dans un flot d'une logorée, on va dire, de mots... Et tu, même quand tu connais l'expression, tu sais plus où est la réponse.
C'est ça l'idée aussi.
Je suis prête.
Alors vas-y.
L'expression que vous avez déjà certainement entendue, tu me gosses.
Ah ben oui.
Là, je te regarde, mais prends pas ça personnel, Arlette. Est-ce que c'est A, je suis enceinte et je le garde, puis ton linge sale est déjà rendu chez ta mère. Ah oui, puis cherche pas ton PlayStation. Et il fait déjà un magnifique choral au fond de l'égout municipal. Ça, c'est A. Est-ce que tu me gosses, ça veut dire exacerbé par tes plaintes et démoralisé par l'anathème dont je suis l'objet, il m'est nécessaire de te faire part de mon mécontentement, cela dit, sans vouloir te froisser. Toi qui disais que j'étais si poli tantôt. Et ou bien tu me gosses, est-ce que ça veut dire je suis le père de ses enfants? Je suis très fier et non, je ne coacherai pas l'équipe de ballet jazz cette année et j'ai déjà accepté d'être marmiton à une soupe populaire. A,
bon, ben,
B, ou C.
Fastoche, c'est là. Enfin,
fastoche. Hein?
T'avais une petite tendance à autre chose.
Toutes les options me semblaient très intéressantes.
Tu sais, quand elle disait logorée, là, elle avait raison.
Tout à fait.
Petite diarrhée verbale. Arlette, non?
Alors là, je reste sur la A.
Je suis enceinte et je le garde, puis ton linge sale est déjà rendu chez ta mère.
Alors, j'ai enlevé je suis enceinte et là, mais tu peux aller rentrer chez ta mère et...
Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça, effectivement.
Ah,
ouais,
moi, je l'ai vu comme ça, alors je me suis dit, bon, allez, tu me gosses, vas-y, tu m'énerves,
mais j'ai
dégage.
Mais parce que B, c'est exacerbé.
Ah, c'est la B,
ouais,
d'accord.
Tu me gosses. Mais A aussi, en fait. Hein, parce que,
là, elle aurait pu passer.
Ça décrit une situation où
Moi, j'étais là avec toi, Arlette. J'étais sur la A.
Ah bon, mais non. Mais c'est pas grave. Tu remarqueras que j'ai mis mes réponses en grand parce que moi-même, des fois, je me perds dans mes réponses. Et d'ailleurs, ça m'amène à l'autre. J'ai des croûtes à manger. On la connaît tous, cette expression. J'ai des croûtes à manger. Est-ce que c'est A? Je suis peut-être pauvre et sans abri, mais j'ai de l'honneur et surtout, j'ai une superbe doudoune qui me garde au chaud sous la giboulée de printemps. Ça, c'est A. Est-ce que j'ai des croûtes à manger veut dire B. Je fais toujours ma vaisselle les yeux fermés, c'est beaucoup plus drôle. On sait jamais. Ou c'est la dernière fois que je te donne que je donne un nom vulgaire à un de mes chats. C'est comique et ça fait rire mes enfants, mais quand il vient le temps de... Ou en fait, quand il est perdu, il faut que je fasse des pancartes et que je les mette partout dans mon quartier. Les gens m'appellent en se foutant de ma boîte.
Alexia, je te laisse le choix. Parce que
j'ai des croûtes à manger.
Là, franchement, là, la vaisselle, non. Moi, je pense que c'est pas ça. Le premier, c'était quoi encore le premier?
Je suis pauvre et sans abri, mais j'ai de l'honneur. Et surtout, j'ai une superbe doudoune qui me garde au chaud sous la giboulée du printemps.
Ouais, ça,
j'ai des croûtes à manger.
C'est la troisième?
Non, c'est la première.
Non, il a raison, c'est par déduction. Tu vois,
c'est ce que j'ai fait. C'est tout à fait logique parce que j'ai pas tout à fait compris. Donc, ça doit être la troisième.
Exactement, c'est mon but.
C'est difficile des fois. Même lui, il s'y reconnaît pas. Donc,
mais j'applaudis les sorts,
ça promet.
Vous êtes bien aimable.
Donc, il est temps de partir en musique.
Non, on a encore le temps d'une dernière.
Ah, une petite dernière.
Blower ses cheveux.
Pardon?
Blower ses cheveux.
Ah, celle-ci, je l'ai jamais entendue.
Avoir peur de trouver du beurre d'amande sur ses pains au chocolat. Ou se perdre dans le bois derrière sa maison parce qu'on est sous. Ou sécher ses cheveux. Et pas uniquement parce qu'on se fait engueuler par quelqu'un qui a du souffle. Blower ses cheveux.
C'est ses cheveux, c'est ça? Oh bah quand même, t'as vu tout ce qu'il met autour? T'as vu tout ce que je supporte chaque semaine?
Mais maintenant, je vais l'utiliser, l'expression, donc c'est bien.
Blower tes cheveux?
Blower mes cheveux.
C'est vrai? Tu vois ça? Non, mais il ne faut pas se faire engueuler pour ça. Là.
Alors, on part en musique avec Gabriel Aplin.
Oui,
Aplin. Qui chante Space Oddity.
That's correct.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. And this is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And now the papers wanna know whose shirt you wear. And it's time to leave the capsule if you dare. And this is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I floating in my I know I'm past 100,000 miles. I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Oh, tell my wife I love her very much. She knows. And ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me? I am spinning around my tin can.
Chanteuse britannique Gabrielle Aplin.
C'était très beau, elle a une voix superbe.
Oui. Magnifique. Ouais.
Alors, on te laisse un petit mot de la fin, Alexa Jensen. D'abord, ça a été. D'abord, je voudrais te remercier une deuxième fois pour être venue jusqu'au studio. C'est tellement plus agréable. Et puis, on a tellement besoin de ce lien-là, de rencontrer les autres que.
De voir les sourires, oui. De voir ou les grimaces, hein, Mathieu.
Absolument pas, je ne sais pas de quoi tu parles.
Quel plaisir, merci pour l'invitation.
Alors, je te laisse redonner la date, l'endroit, l'heure.
Le concert Vigile de Voces Borealès. Ce sera donc le 30 avril à 19h30 à Saint-Léon de Westmount. On va y entendre
oui,
les Vêpres de Rachmaninov pour 40 voix. C'est un concert à ne pas rater.
Ne pas oublier, ou alors pour ceux qui sont venus en deuxième partie qui n'ont pas entendu, réécouter l'émission parce qu'il y a des morceaux musicaux qui sont absolument sublimes et pensez à écouter ça dans un endroit avec un écho extraordinaire. Ça va être... voilà.
On peut trouver des extraits sur vocesborealès.org.
Voilà.
Donc,
on peut
j'invite
aller
tout le monde à aller voir.
Est-ce que tu sais si ça va être enregistré?
Ça va être enregistré, oui. On fait un enregistrement vidéo.
Ok.
Donc, je serai de retour pour en parler, peut-être.
Ben oui, alors là, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Tu viens un jour où il y a Mathieu, bien sûr, parce que ça sera plus sympa.
Je suis allé mardi.
Merci beaucoup, Mathieu Tessier, pour ta chronique, pour ta présence. Et puis aussi, tu t'es occupé de la technique et des chansons, donc bravo pour ça aujourd'hui. En plus...
Les vieilles habitudes.
Les vieilles habitudes, ça te reprend, hein? Ça te manquait terriblement. C'est pour ça qu'il a viré Nicolas. Nicolas, qui est d'habitude le technicien avec lequel je travaille, mais là, il a dit, bon, allez, sors, c'est moi qui m'en occupe. Donc, merci pour tout ça. Merci à toutes et tous qui nous avez écoutés. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis, moi, je vous dis à demain. Alexia, tu viens
à
quand
bientôt.
Tu veux. Bah, à bientôt, fin avril, le 30 avril. Et puis, toi, Mathieu, à la semaine prochaine.
Tout à fait.
Parce que demain, ouf, enfin, je retrouve Nicolas. Allez, j'embrasse tout le monde. Au revoir.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relèches moutardes puis le liqueur.
Et surtout, à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.